Radio Stardust.
Morning edition from NPR.
France Inter, le 18-20.
Où va l'Ukraine? 5 ans après la révolution orange et l'avènement d'un gouvernement pro-occidental, les Ukrainiens choisiront fin mars leur prochain président. C'est pour l'instant un entrepreneur de spectacle sans aucune expérience politique qui tient la tête des sondages. On en parle tout de suite avec notre invité. On ira voir ensuite ce que deviendra l'Autriche quand il n'y aura plus de neige. Réchauffement climatique oblige, les stations de ski se préparent déjà au pire. C'est mercredi, Eva Bétan nous dira tout le bien qu'elle pense du documentaire signé Nanni Moretti. Santiago Italia, le témoignage de Chiliens qui ont quitté leur pays après le coup d'état de Pinochet et qui ont refait leur vie en Italie. Enfin, dans le monde à l'envers, Jean-Marc Fou reviendra sur la rencontre Trump et Kim Jong-un, rencontre en trompe-l'œil qui ne doit pas faire oublier la prolifération nucléaire mondiale. Et puis dans la deuxième heure, au téléphone sonne, retour sur la mission patrimoine de Stéphane Bern qui revient en deuxième année, non pas en deuxième semaine, mais en deuxième année, avec quelles nouveautés, quelles ambitions. Il sera là tout à l'heure pour répondre à toutes les questions, avec aussi Philippe Toussaint, le président de l'association des vieilles maisons françaises. Vos questions au 01 45 24 7000 ou sur l'appli France Inter.
Yves Decamp. Un jour dans le monde.
C'est donc dans un mois, quasiment le 31 mars, le président ukrainien Porochenko remet son mandat en jeu. 5 ans après les événements de 2014 à Kiev, le soulèvement pro-européen de la place Maïdan, la fuite à Moscou du président pro-russe Yanukovych, l'arrivée au pouvoir de Petro Porochenko, s'en sont suivis les événements que l'on sait, l'annexion de la Crimée par la Russie, la guerre avec les séparatistes à l'est du pays, une guerre qui a fait près de 13 000 morts et qui n'est toujours pas réglée. C'est ce dont on va parler maintenant avec vous, Annie Daubenton, bonsoir.
Bonsoir.
Journaliste spécialiste de l'Europe centrale et orientale, ancienne correspondante de France Inter à Moscou. Vous avez été conseillère culturelle à l'ambassade de France à Kiev, auteur également d'un livre intitulé « Ukraine, l'indépendance à tout prix », livre sorti chez Buchet-Chastel en 2014. Alors, vu le contexte que je viens de rappeler, les enjeux de cette élection semblent très importants dans une Ukraine qui reste écartelée, bien sûr, entre la Russie et l'Union européenne. Pour autant, ce sont plus des motifs intérieurs qui vont jouer. C'est en tout cas l'impression que ça donne, puisque les sondages mettent en tête 3 candidats peu ou prou pro-occidentaux.
Oui, c'est vrai, mais je dirais que les motifs extérieurs, pour reprendre votre expression, déteignent terriblement sur les motifs intérieurs. Alors, il est vrai que les candidats plus ou moins en tête sont pro-occidentaux, mais je dirais aussi qu'après ce qui s'est passé en Ukraine, plus personne ne s'avère être, ou tout au moins avoue ouvertement, ou très rarement, être pro-Kremlin. Le pays est en guerre, le territoire a été mangé, si je puis dire, des deux côtés, hein, au sud avec la Crimée, à l'est avec le Donbass, et je dois dire que l'amitié avec la Russie est disons, quelque chose qui se porte assez mal en Ukraine. D'où cette difficulté que les Ukrainiens sans doute éprouvent à la fois à l'envie de sanctionner leur pouvoir actuel parce que les prix ont augmenté terriblement, parce que le pouvoir d'achat a été grignoté, parce que la guerre a continué alors que le président avait promis qu'il allait arrêter ça dans les mois qui venait après son élection. Et donc, il y a une espèce de désaffection de la société pour le pouvoir politique. Et en même temps, il y a une présence, bien sûr, du jeu russe, absolument à tous les niveaux, et par financement, par intermédiaire, par oligarchie, par cyberguerre, par... etc.
On va revenir sur le rôle de la Russie dans cette élection. En attendant, Petro Porochenko, il est très critiqué dans son pays parce qu'il avait aussi promis de lutter contre la corruption et là-dessus il a échoué. Hein. Une affaire vient d'éclater, il vient d'être éclaboussé par un problème de contrebande sur des équipements militaires qui viendraient justement de Russie. Donc là-dessus, on peut dire qu'il a échoué.
Écoutez, oui, il n'y a pas de président qui réussisse tout de suite, hein, mais c'est vrai
mais
que...
Mais c'est important la corruption pour les Ukrainiens.
Absolument. Absolument, je serai la dernière à vous contredire, mais par contre, pour les faits que vous venez de mentionner, il faut bien voir qu'on est à 1 mois des élections et que ce qu'on appelle dans cette zone-là du monde les compromates, c'est-à-dire les compromissions qui permettent de faire basculer les scores dans un sens ou dans un autre, sont là aussi très bien portés.
Alors, en tout cas, qu'il ait échoué, c'est une aubaine évidemment pour ses adversaires. C'est un comédien qui est en tête des sondages. On va y revenir plus précisément sur lui, avec aussi en troisième position l'ancienne première ministre Yulia Tymoshenko, qui appelle à la destitution du président à cause justement de cette corruption endémique qui se poursuit. On se souvient d'elle, hein. Elle était très médiatique au moment de la révolution orange. Elle a d'ailleurs été battue aux deux précédentes présidentielles. Elle est présentée comme la candidate populiste.
Oui, faut dire qu'elle dénonce la corruption chez tout le monde, sauf chez elle. C'est ça le problème.
Elle a eu des problèmes judiciaires.
C'est une campagne électorale qu'elle a commencée très en avance, et si je puis dire un peu son dernier tour. Et donc elle aspire terriblement à la présidentielle. Et donc elle était en 2014, elle était déjà le challenger de Poroshenko. Donc là, elle met tout pour réussir. Populiste dans ce contexte, ça veut presque que plus rien dire. C'est vrai que ces arguments ont souvent été dénoncés comme mensongers, exagérés, etc. Elle a tout un discours, elle n'est pas la seule, mais elle a quand même tout un discours qui est terriblement superlatif par rapport à ce que l'on pourrait attendre de quelqu'un qui aspire à la présidence et qui aurait une sorte de rationalité dans la présentation des faits. Donc voilà, le fake news là aussi se porte bien en Ukraine.
Si je vous entends bien, donc tout va se jouer entre Poroshenko et l'actuel favori des sondages.
On ne sait pas, parce que les sondages en ce moment sont faits sur une portion extrêmement étroite de la population, et donc on est dans une sorte d'incertitude totale. Vous savez, les sondages à 20, 25%, 27%, vraiment, on peut absolument pas en tirer une quelconque certitude.
Alors, ce sondage entre 20 et 25%, il concerne un comédien, entrepreneur de spectacle de 41 ans, sans aucune expérience politique, Volodymyr Zelensky, dont le programme reste très flou. Claude Bruyot, le correspondant de France Inter à Moscou, est allé à Kiev à la rencontre de son équipe de campagne, ce qui n'a pas été facile d'ailleurs. Reportage.
On va où là exactement? On essaie de trouver l'office de l'équipe de Zelensky, et c'est vraiment bien caché.
Dans une galerie commerciale.
Ah oui, dans une galerie comme... Ah, le voilà, le voilà.
À l'intérieur, 4 jours seulement après l'inauguration des lieux, une demi-douzaine de bénévoles en pull vert, installés derrière de petites tables, enchaînent les entretiens avec les sympathisants. Il y a beaucoup de jeunes, mais aussi quelques personnes âgées, comme Joséphina, 75 ans, ancienne professeure de mathématiques.
Elle est venue pour chercher aide auprès de Volodymyr Zelensky. Elle dit qu'elle est venue chercher aide pour protéger son fils. En ce moment, il était businessman. Il était incarcéré par le SBU, la police militaire.
Joséphina repart réconfortée par un bénévole de la campagne Zelensky, Dimitri, un activiste comme on dit ici.
Bien sûr que ça ne se passe pas aussi facilement au cinéma que dans la vie de tous les jours. Mais avant de se lancer en politique, Volodymyr Zelensky était déjà un excellent manager. Il a créé son entreprise de spectacle et la marque qu'il a développée. Le quartier 85 est toujours exporté dans une vingtaine de pays. Il a été aussi dirigeant de Télécanal. C'est vraiment un bon manager qui a réussi.
Mais depuis l'avènement de Volodymyr Zelensky, les critiques pleuvent sur le showman. On lui reproche notamment d'être manipulé par le propriétaire de la télévision qui diffuse ses spectacles, un certain oligarque Igor Kolomoïski, à la triple nationalité ukrainienne, chypriote et israélienne, ennemi juré de Petro Poroshenko, qui aurait fait geler une partie de sa fortune. Une interprétation totalement gratuite pour Alexander, économiste proche de Zelensky.
Zelensky a travaillé dans beaucoup de chaînes ukrainiennes, mais on ne peut pas lui reprocher d'être une marionnette d'un propriétaire de Kolomoïski, par exemple. Je ne peux pas vous dire s'il y a une indépendance de vue, parce que la vue de Kolomoïski, en ce moment, les Ukrainiens, ils la connaissent pas.
Au-delà des doutes qui subsistent sur l'indépendance de vue de Volodymyr Zelensky, reste surtout son manque total d'expérience. Olga Bouchma, politologue à l'université Shevchenko de Kiev.
Ce qui est évident, c'est qu'il manque la maîtrise de certains sujets politiques pour un pays en guerre. Il est vraiment important de maîtriser bien beaucoup de sujets liés à l'économie générale et d'autres questions.
Des lacunes qui ne sautent pourtant pas aux yeux de tous les Ukrainiens, avec 27% des intentions de vote, soit 10 points de plus que le président Porochenko. Lors du dernier sondage de l'Institut de sociologie de Kiev, Volodymyr Zelensky est plus que jamais en course pour atteindre le 21 avril, date du deuxième tour du scrutin présidentiel ukrainien.
Claude Brouillot à Kiev, candidature sérieuse donc que celle-là, Annie Daubenton. On ne sait pas grand-chose de lui, sauf qu'il avait soutenu la révolution de Maïdan.
Oui, bien sûr, mais à travers ses shows, c'est-à-dire il l'avait soutenu de façon là où il excelle, c'est-à-dire comme comédien et comme dans le showbiz où ses films sont très très bien, très très remarquables, hein, et très drôles. Donc là-dessus, c'est pas la question. La question est plutôt politique. Parce que quand même, pour aspirer à la présidence, il suffit pas seulement de faire rire les populations. Donc il y a une rencontre qui a été faite à Bruxelles ces jours derniers avec les principaux responsables de politique européenne et internationale de tous les candidats. Et à Bruxelles, le responsable politique étrangère de Zelensky a jeté la désappointement total dans la commission. Donc c'est vrai qu'il parle le moins possible, d'où effectivement le reportage.
C'est souvent ce qui permet au sondage
voilà,
de monter.
Voilà, mais c'est excellent. Bien sûr, il a compris qu'il valait mieux gérer son passé d'homme de cinéma et d'homme de show.
Alors, vous parliez de l'Europe. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a mis les Ukrainiens en garde, car l'Europe aussi scrupte de près cette élection. Il n'y a pas que Moscou. Il met les Ukrainiens en garde contre le populisme et le nationalisme radical.
Oui, bien sûr, ce sont des dangers, ce sont des élections très ouvertes, il y a 44 candidats, c'est énorme, donc une dispersion des voix, donc chacun veut essayer de percer dans ce paysage, et donc, nationalisme radical, il est peu représenté, il est un peu représenté, mais pas beaucoup, le populisme est un petit peu chez tous ces candidats qui essayent bien sûr d'aspirer. Mais le plus gros problème, si je puis dire, le plus gros point noir sur le mois qui vient va être l'attitude que le Kremlin va adopter parce que si c'est important pour les Ukrainiens, c'est très, très, très important pour la Russie.
Le Kremlin qui est accusé de désinformation, d'ingérence.
Oui, bien sûr, et surtout de prolonger la guerre sans aucune...
Mais il y a un candidat ouvertement soutenu?
Oui, bien sûr. Il y a le Boyko, Yuri Boyko, soutenu par Viktor Medvedchuk, qui est quelqu'un de lié de parenté à Poutine et à Medvedev. Donc voilà, il y a des intrusions tout à fait directes.
Parce que cette importance de la Russie, évidemment, dans cette élection, on la connaît. Il ne faut pas oublier que 24 marins ukrainiens sont toujours retenus à Moscou après l'affaire de la mer d'Azov.
De la mer d'Azov, qui est sous contrôle. Là, aujourd'hui, il y a eu le représentant américain Volker qui a rencontré les responsables ukrainiens sur un bateau à Odessa pour bien montrer que, quand même, l'entrée des mers n'était pas encore totalement sous le contrôle de la Russie.
Quand Porochenko demande l'envoi de casques bleus dans le Donbass, c'est inimaginable, évidemment.
C'est-à-dire, tant que la frontière n'est pas fermée entre l'Ukraine et la Russie, bien sûr que c'est impensable. Donc c'est bien sûr d'accord sur le principe, mais sur la réalisation, c'est très compliqué.
Alors jusqu'où va se nicher le conflit avec Moscou? On l'a dit tout à l'heure dans le journal, hein, la candidate ukrainienne de l'Eurovision a été écartée parce qu'elle voulait donner des concerts en Russie, dans ce que les Ukrainiens appellent l'État agresseur.
Donc oui,
cette inimitié
c'est un peu
va
aussi
très loin.
La caricature de ce que cet État en guerre essaie de jouer pour récupérer vraiment son patrimoine, quelque part. Donc moi, je trouve très honnêtement que ça atteint des proportions un peu caricaturales. C'est peut-être ce que Donald Tusk appelle nationalisme radical. Je ne sais pas, ça reste à prouver.
Un dernier mot sur le rôle de l'Église dans cette élection, puisqu'une Église orthodoxe ukrainienne a vu le jour, hein, très, très récemment, pour prendre son indépendance vis-à-vis de l'Église orthodoxe russe. Cette Église ukrainienne qui a ses locaux en Crimée, qui vient d'être sommée de l'équité.
Oui, l'Ukraine a obtenu ce qu'on appelle l'autocéphalie, c'est-à-dire le fait que l'Église ukrainienne est indépendante de l'Église orthodoxe de Moscou. Voilà. Donc ça, c'est un fait, je dirais, dans la récupération du patrimoine, comme on disait tout à l'heure. C'est vrai que c'est un fait important pour les Ukrainiens. Maintenant, ça n'a pas joué sur les élections, franchement. Sauf que quand même, le président Poutine a eu l'idée de dire que les croyants seraient défendus, les croyants répondant à l'orthodoxie de Moscou seraient défendus si c'était nécessaire. Donc voilà, ça ajoute un tout petit peu à la fois une manière de s'écarter de la Russie et en même temps une manière de montrer que cette reconnexion avec l'intégralité de l'indépendance est en train de se mettre en forme.
Annie Daubenton, dont je rappelle l'ouvrage paru chez Buchet-Chastel intitulé « Ukraine, l'indépendance à tout prix ». Merci beaucoup.
France Inter, Yves Decamp, Un jour dans le monde.
Dans un instant, ces petites infos qui n'ont pas échappé au radar d'Amélie Perrier, notamment les méthodistes américains favorables au mariage gay des méthodistes américains, et puis les militants des droits de l'homme toujours en difficulté en Afrique du Nord, avec aussi la chronique cinéma d'Eva Bétan, bien sûr. Bonjour Eva.
Bonjour.
Nanine Moretti, oui. Au programme.
Un film qui s'appelle Santiago, Italia, et ça semble aussi lointain qu'un film en costume alors que c'était il y a 45 ans, tant l'atmosphère a changé. Ouais. Il fut un temps où en Italie, on accueillait les réfugiés fuyant Pinochet avec des fleurs.
Et c'est un documentaire.
Exact.
Jean-Marc Four, Le Monde à l'envers.
Bonsoir Yves, bonsoir
vers 7h05, vous nous parlez de...
De Corée du Nord, mais pas seulement. Il y aura peut-être bientôt moins de bombinettes en Corée, mais il y a plein d'autres docteurs follamour du nucléaire partout ailleurs sur la planète.
L'arbre de la rencontre au Vietnam qui cache la forêt du nucléaire.
Exactement.
À tout à l'heure. That I will break. My breath will find a way, pale light and delicate, to help you through the day, the beginning of the week. My strength will know. Jeanne Hadid, Falling Hearts. Jeanne Hadid, victoire de la musique, et c'est un album France Inter.
France Inter.
Good evening and welcome.
Герасимов Капьон.
Un jour dans le monde.
Intervention extra.
Sous les radars, les petites infos qui ne vous ont pas échappé. Amélie Perrier, rebonsoir.
Rebonsoir.
Et on commence par les chrétiens, décidément chahutés en ce moment dans leur fonctionnement et leurs convictions.
Aux États-Unis, les églises méthodistes doivent se prononcer aujourd'hui sur leur position à propos du mariage gay et sur un clergé LGBT. Et si elles veulent garder cette appellation, les méthodistes unis, il va falloir voter contre. Une conférence générale vient de se tenir en fait à Saint-Louis, dans le Missouri. Les 800 délégués ont d'abord voté sur la proposition One Church, une église, qui a été rejetée. Elle proposait de célébrer des mariages homosexuels et de nommer des pasteurs LGBT. Et l'un des délégués, laïc, gay, il s'appelle Jeffrey Warren, a fait un discours qui est en train de devenir viral sur les réseaux sociaux. Il dit à la tribune, je veux devenir un pasteur de l'église méthodiste unie. J'aime nos traditions. Je vous aime tous. Nous sommes l'église, tous ensemble. C'est le corps du Christ. Nous sommes plus forts ensemble que divisés et rien ne peut nous unir davantage que Dieu. Nous sommes l'église. Nous sommes les enfants de Dieu. Laissez-nous être l'église tous ensemble. Voilà la ferveur de ce jeune Jeffrey Warren. Et à l'extérieur de la salle de conférence, vous les entendez là, des militants ont chanté pour plaider la cause des homosexuels trans et queer. Il y a un vrai débat au sein des méthodistes et si les traditionalistes contre l'ouverture aux homos ont gagné hier, ce n'est pas d'une grande majorité. 438 voix pour le plan traditionaliste, 384 contre. Et parmi les voix qui ont compté lors de cette conférence internationale, celle des pasteurs africains en faveur donc du plan traditionaliste.
Tout à fait autre chose, ce rapport alarmant d'Amnesty International sur les droits de l'homme au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.
L'ONG dénonce l'impunité qui a régné dans ces régions l'an dernier, où les gouvernements ont multiplié les violations des droits de l'homme. Détention arbitraire d'opposants, d'activistes, torture, harcèlement sexuel. Amnesty évoque évidemment l'affaire Khashoggi, le journaliste saoudien, vous savez, tué au consulat d'Arabie Saoudite en Turquie. Mais d'autres pays, comme le Maroc, sont aussi dans le viseur de l'organisation, et c'est plus étonnant. Amnesty dénonce l'interdiction de ces activités au Maroc, ça n'était pas le cas par le passé. Cas emblématique également cité dans le rapport, la détention et la condamnation de 53 manifestants du Irak, du RIF.
Le RIF croit à la liberté, à l'humanisme, à la justice sociale. Si vous emprisonnez nos leaders, nous résisterons tant que nous n'obtiendrons pas gain de cause. Nos demandes sont des droits dans les pays démocratiques.
Voilà, c'était à l'été 2017, les manifestations dans le RIF. Plusieurs dizaines de dirigeants ont été condamnés l'an dernier à des peines allant jusqu'à 20 ans de prison. Et le mois dernier, ils ont boycotté leur procès en appel pour dénoncer une justice politique. Des avocats ont aussi été poursuivis par le pouvoir marocain pour avoir défendu les manifestants. Il y a eu également des blogueurs, des journalistes devant les tribunaux. Les droits de manifester, de protester, de couvrir ces événements d'opposition au pouvoir, voilà ce qui est menacé aujourd'hui dans le royaume, dénonce Amnesty. L'autre grief de l'organisation contre le Maroc, c'est la manière de traiter les migrants de passage entre le Sahel et l'Europe. Et de rappeler là le cas de cette jeune femme tuée sous les balles de la Marine royale. Elle avait ouvert le feu, la Marine royale, sur un navire transportant des candidats à l'exil en septembre dernier.
Et si la diplomatie, pour terminer, était un coup de billard à plusieurs bandes?
Voir un coup de billard, tout simplement. C'est la vidéo mise en ligne par le Premier ministre italien Giuseppe Conte sur son compte Twitter. Une leçon de billard à Theresa May. Alors voilà, la scène se passe à Sharm el-Sheikh, en Égypte, en marge du sommet Europe-Ligue arabe qui vient de se terminer. Et les dirigeants européens et arabes parlaient des questions migratoires, économiques. Mais le soir, à l'hôtel, il y a eu comme un rapprochement entre Londres et Rome, devant un billard donc. Et c'est l'Italien qui a donné un cours plutôt détendu à la Britannique. Peut-être des coups à plusieurs bandes qui vont l'inspirer pour sortir d'une autre partie un peu plus ardue, celle du Brexit.
Merci Amélie Perrier, sous les radars.
France Inter,
Doha, Harare, Jérusalem,
le 18-20.
Le Mexique est juste derrière.
Un jour dans le monde.
Séoul, Washington,
San Paolo,
Beyrouth,
France Inter.
18h41 pour le reportage d'un jour dans le monde. Nous faisons ce soir escale en Autriche, où de nombreux vacanciers vont passer leurs vacances d'hiver. C'est d'ailleurs la première destination de ski au monde. On imagine l'importance de ce secteur des sports d'hiver dans l'économie du pays. Mais justement, qu'en sera-t-il à l'avenir si le changement climatique n'est pas maîtrisé? Ses conséquences se font déjà sentir dans de nombreuses stations et les projections des scientifiques ne sont pas rassurantes. Il est donc urgent de s'adapter dès aujourd'hui. Bonsoir Isorias.
Bonsoir.
Vous nous emmenez ce soir à Murau, dans la région autrichienne de Styrie, pour vérifier justement comment les stations de ski autrichiennes font face aux effets déjà sensibles de ce réchauffement climatique.
Petite bourgade autrichienne cernée par les Alpes, Murau accueille depuis des décennies les skieurs d'Autriche et d'ailleurs. Plusieurs stations de ski entourent et animent ce village de 3600 habitants. Parmi elles, Frauenalpe. Longtemps station favorite des locaux, elle a dû fermer ses portes en 2016. Thomas Kalcher, le maire de Murau, s'en souvient encore.
Hello, Thomas Kalcher.
La station de ski de Frauenalpe a fermé à cause de la baisse massive des chutes de neige. L'exploitant n'a malheureusement pas pu faire les investissements nécessaires en temps voulu. Évidemment, cela a eu des conséquences. Ça a affaibli l'économie locale, avec une baisse des offres d'emploi dans certains secteurs. Dieu merci, toutes les autres stations de ski aux alentours ont-elles massivement investi dans les infrastructures.
C'est le cas de Kreischberg, à seulement quelques kilomètres de là. Située entre 850 et 2200 mètres d'altitude, la station de ski subit déjà, comme beaucoup d'autres, les effets du réchauffement climatique, au premier rang desquels la raréfaction de la neige naturelle en dessous de 1300 mètres d'altitude. Très tôt donc, Karl Fussi, l'exploitant de Kreischberg, a décidé de s'adapter.
À Kreischberg, c'est plusieurs millions d'euros que nous avons investis dans des installations d'enneigement. Cela nous permet d'avoir aujourd'hui 150 canons à neige pour une surface totale de piste de 140 hectares. Nous pouvons donc couvrir plus de 90% de nos pistes avec de la neige artificielle.
Mais Kreischberg ne s'arrête pas là. La station propose de plus en plus d'activités l'hiver en dehors du ski et promeut le tourisme de montagne l'été. Kreischberg prépare son avenir, un avenir où la neige sera de plus en plus rare, ce qui changera le modèle actuel des stations alpines, explique Marc Olefs, chercheur à l'Institut autrichien de météorologie.
So what we expect for the future.
Nous nous attendons à une hausse des températures de 2 à 4 degrés d'ici la fin du siècle. Conséquence, la quantité de précipitations solides va continuer de baisser. Il y aura plus de pluie et moins de chutes de neige. Jusqu'à 2050, on devrait pouvoir continuer à faire du ski, mais les coûts d'investissement pour les infrastructures vont fortement augmenter. Après cette date, en revanche, cela dépendra vraiment de l'action humaine et de notre capacité à lutter contre le changement climatique.
Climate protection plans will be effectively organized.
Face à ce constat, l'Autriche s'inquiète. Dans ce pays recouvert aux deux tiers par les Alpes, le tourisme d'hiver est une manne financière importante, représentant par exemple 14 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'hiver dernier. Le problème est donc pris très au sérieux par Ulrike Rauch-Keschmann, responsable du tourisme au sein du ministère de l'Environnement.
Près de 20 millions de touristes sont venus l'hiver dernier en Autriche. Ça représente plus de 70 millions de nuitées. Sans ce tourisme, il n'y aurait plus de vie dans de nombreuses communes en Autriche. Plus de vie de village, plus d'infrastructures, plus d'économie. Il y a donc eu ces dernières années des investissements massifs, notamment dans les infrastructures des stations de ski, pour l'enneigement, mais aussi pour améliorer le confort et la qualité. Ce sont ainsi des millions d'euros qui sont investis chaque année par les exploitants.
C'est loin d'être suffisant aux yeux des ONG, à l'instar de Global 2000. Pour Johannes Wallmüller, spécialiste climat au sein de l'association, il est urgent de penser le tourisme d'hiver de demain, un tourisme durable.
Ces dernières années, la technologie du type canon à neige s'est développée très vite. On y a investi des milliards d'euros, mais cela consomme beaucoup d'énergie, de l'énergie sale, qui vient du charbon ou du nucléaire que nous importons. Donc ce n'est pas une solution durable. Et en plus, cela ne nous aide pas sur le long terme, car avec la hausse attendue des températures, on sait que cette technologie ne fonctionnera plus. De manière générale, il y a un manque de vision sur le long terme. Le gouvernement ne se projette que sur des périodes électorales. Et les acteurs économiques ne pensent qu'à la prochaine période d'investissement, jamais sur un temps plus long.
Et pourtant, le dérèglement climatique aura un impact financier sur le tourisme, rappellent les ONG. D'après une étude de 2015, le secteur touristique autrichien pourrait perdre 300 millions d'euros par an, en moyenne, jusqu'en 2050, à cause des effets du changement climatique.
Y aura-t-il toujours de la neige en Autriche ? Un reportage d'Isor Yass, France Inter, Un jour dans le monde, 18h48, à tout de suite. I'd like to stay in love with you all summer and after fall. I'll keep you warm through the winter. Ooh, 'cause I've noticed one thing. C'est très joyeux, très engageant. Ça s'appelle Oh Laurie par Alessi Brothers.
3, 2,
1, let's go.
France Inter. Le 18-20.
Appelons ensemble votre jour.
And the winner is...
Un jour dans le monde.
Action!
C'est mercredi, c'est cinéma, avec vous Eva Bétan. Nadi Moretti, le grand cinéaste italien, revient dans un genre qu'il pratique rarement, le documentaire. Le film s'appelle Santiago Italia. Vous nous en parlez dans un instant. D'abord, bande-annonce.
Che cittadino si può immaginare che la sua propria aeronautica va a bombardare il palazzo di governo?
Io sono un rifugiato, sono stato accolto, mi hanno permesso di integrarmi.
Mi dijo che esto iba a ser, come quien dice, imparcial.
Io non sono imparziale.
Voilà, Nanni Moretti qui dit je ne suis pas impartial.
Il craque un moment, hein, je dirais que vous expliquez pourquoi il dit
donc
ça.
Donc il revient dans ce documentaire sur une page d'histoire célèbre au Chili, bien sûr, le coup d'état de Pinochet en 73. Le rapport avec l'Italie est connu en Italie encore que...
Pas sûr.
Pas forcément. Mais ce sera une découverte pour beaucoup de spectateurs français. L'Italie, à l'époque, s'était comportée de manière exemplaire envers ceux qui fuyaient la dictature.
Alors c'est un film qui est très émouvant pour plusieurs choses. D'abord pour les témoignages que l'on entend, mais aussi parce qu'il nous renvoie à une période révolue. Et on prend conscience conscience du temps. Il y a eu des horreurs, la dictature du Pinochet, mais il y a eu à cette période aussi une espérance. Et il y a eu à cette période une solidarité internationale. C'est un documentaire classique qu'il fait au début. Il recueille des témoignages de gens qui ont survécu à la dictature, qui ont soutenu Allende, qui ont cru au socialisme à visage humain, et qui racontent leur stupeur quand ils entendent l'aviation de leur pays bombarder le palais de la Moneda, le siège de la présidence.
Témoin, là, oui,
et on entend le son du dernier discours d'Allende qui va mourir là, dans les heures qui suivent, d'une grande tenue. Et c'est après qu'arrive le film dans le film, en quelque sorte, le véritable sujet de Moretti, qui est l'Italie. L'Italie qu'il a beaucoup critiquée. Oui, l'Italie de Berlusconi qu'il a critiquée, mais l'Italie de l'époque s'était bien comportée. Des diplomates dans l'ambassade du Chili, des jeunes, décident sans demander l'autorisation à personne d'ouvrir l'ambassade à plusieurs dizaines de réfugiés qui voulaient fuir la torture et probablement la mort. Et là, on se dit, mais attends, mais c'est une autre planète. Après, ces réfugiés arrivent en Italie et ils sont accueillis. Ils sont financés, ils sont hébergés, tout. Et ça se télescope avec aujourd'hui, bien sûr, écoutez Nanni Moretti.
Sbagliando, si identifica gli anni 70.
Quand on pense à l'Italie des années 70, on ne pense qu'au terrorisme. Il y avait le terrorisme, mais il y avait aussi la solidarité. C'était une Italie différente de celle d'aujourd'hui. La tonalité du film a changé au fil du temps. Quand j'ai commencé le tournage, il y avait en Italie un gouvernement quasiment de gauche.
Et
en un an et demi, la situation politique et sociale a changé. Et donc, aujourd'hui, c'est un film sur l'accueil dans un pays où un grand pan de la société a pris une direction contraire à l'accueil, à la compassion et à la curiosité envers autrui.
Alors, sous Berlusconi, Moretti avait mis à un moment donné carrément sa carrière entre parenthèses pour pouvoir lutter contre lui. Là, il se dit plus âgé, plus fatigué, mais sur le fond, il n'est absolument pas d'accord. Il a cette phrase, il dit Berlusconi, c'était quelqu'un qui était un patron de médias et qui est devenu un homme politique, c'était inadmissible. Cela, c'est inadmissible en quelque sorte autrement. Il dit, ils ont hypnotisé les gens en leur inculquant la peur.
Voilà, ça s'appelle Santiago Italia par Nanni Moretti. Merci Eva Bettan.
Le 18-20, Yves Decamp sur France Inter.
Le monde à l'envers avec vous Jean-Marc Four, bonsoir.
Bonsoir.
Kim Jong-un et Donald Trump se sont donc réunis au Vietnam. On y revient dans un instant dans le journal de 19h. Ce deuxième sommet pourrait conduire à un début de dénucléarisation de la Corée du Nord. Mais vous nous dites attention au trompe-l'œil. Pendant ce temps, sur l'ensemble de la planète, l'heure est à l'inverse, à une nouvelle prolifération nucléaire.
On a envie d'y croire, évidemment, envie de voir ce sommet Kim-Trump enclencher un processus vertueux dans la péninsule coréenne avec des engagements de la Corée du Nord, une promesse de démantèlement du complexe atomique de Yongbyon, un renoncement à la fabrication de missiles de moyenne et longue portée, un moratoire sur la fabrication de toute arme nucléaire et bien sûr l'acceptation d'une mission internationale d'inspection de ce processus. Si tout ça débouche, faudra pas bouder son plaisir, ça sera déjà beaucoup. Ce sera beaucoup et en même temps ce sera très peu. D'abord, on restera loin d'un processus de dénucléarisation complète de la Corée du Nord, parce que l'arme nucléaire est une sorte d'assurance-vie pour Kim Jong-un, donc il ne va pas y renoncer facilement. Mais surtout, cette éventuelle bonne nouvelle ne doit pas être en effet un miroir aux alouettes qui cache l'essentiel. La prolifération nucléaire n'est pas en recul, c'est plutôt l'inverse. Elle menace de repartir à la hausse, et c'est pas moi qui le dis, c'est le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avant-hier à Genève, je cite, « Le système de contrôle des armements est en train de s'effondrer. »
La faute à qui ?
D'abord, la faute à Moscou et à Washington, comme au temps de la guerre froide. Ces derniers jours, les États-Unis et la Russie ont tous deux suspendu leur participation au traité FNI sur les forces nucléaires intermédiaires. Depuis 30 ans, cet accord empêchait le développement d'armes d'une portée située entre 500 et 5000 km. Il a permis, par exemple, de débarrasser le sol européen des tristement célèbres missiles russes SS-20 et américains Pershing. Seulement, voilà, Moscou et Washington se soupçonnaient mutuellement de violer l'accord. Donc, retrait. Trump d'abord, Poutine ensuite. La Russie est soupçonnée de posséder une nouvelle arme sol-sol de 700 km de portée, 9M729, c'est son petit nom, et la Russie travaille aussi sur un nouveau missile hypersonique qui serait impossible à intercepter. En face, les États-Unis veulent doter leurs sous-marins de nouvelles charges nucléaires dites de faible intensité, faut le dire vite, hein, c'est quand même 50 fois Hiroshima. Ils explorent la piste de nouveaux missiles mer-sol et ils veulent investir des sommes gigantesques dans les 30 ans à venir, des millions de milliards de dollars. Donc le risque d'une nouvelle prolifération nucléaire façon guerre froide Est-Ouest n'a jamais semblé aussi élevé. Et soit dit en passant, l'Europe, en plein milieu, se retrouve gros gens comme devant. En plus, ça ne s'arrête pas là, la prolifération concerne aussi de nouveaux acteurs.
Lachin, vous allez nous parler de la Chine.
Oui, entre autres, la Chine, c'est bien sûr le nouvel acteur nucléaire majeur qui change la donne par rapport à l'époque de la guerre froide. Et c'est aussi sans doute en pensant à cette menace chinoise que Trump a décidé de se retirer de l'accord FNI. La Chine possède aujourd'hui toute la gamme des missiles possibles, petites, moyennes, longues portées et même intercontinentales avec le Dongfeng, 10 000 km d'autonomie, c'est la plus longue portée au monde. Et Pékin est en train de moderniser son arsenal nucléaire avec sans doute déjà plusieurs centaines de missiles équipés. Au-delà de la Chine, poursuivons l'inventaire, il est préoccupant. Citons d'abord évidemment l'Inde et le Pakistan, tous deux détenteurs de l'arme nucléaire. C'est pour ça que la crise actuelle entre les deux pays fait froid dans le dos. Et puis ajoutons ceux qui aimeraient posséder l'arme. L'Iran, mais qui respecte pour l'instant les contrôles qui lui sont imposés. La Turquie, à qui on prête régulièrement des intentions sur le sujet. Et l'Arabie Saoudite, à laquelle l'administration Trump souhaite vendre des centrales nucléaires civiles qui pourraient être le préalable au développement d'armes militaires. Riyad semble s'être déjà doté d'un site de lancement de missiles balistiques. Et là, le deux poids, deux mesures des Américains entre l'Arabie Saoudite et l'Iran est flagrant. Si on se résume, la romance Kim-Trump, elle fait le spectacle, mais sur le dossier du nucléaire, elle sera d'un effet microscopique par rapport au risque global de prolifération.
Le monde à l'envers, par Jean-Marc Four, merci.